Vous écoutez, on lit pour vous.
Un camp d'écologie à la dure qui a forgé des scientifiques à Charlevoix. Un texte de Zacharie Goudreau paru le 5 juillet 2025 dans Le Devoir. Un camp de jour, ça peut marquer un été et parfois toute une vie. Ça réveille des souvenirs enfouis depuis quelques années, voire quelques décennies. Ils ont fréquenté, il y a plusieurs décennies déjà, le camp Saint-Viateur, dans la région de Charlevoix. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis, mais les souvenirs de ces anciens campeurs demeurent vifs, la baie de Port-au-Saumon leur ayant offert un accès incomparable à la nature et à la science, qui a d'ailleurs influencé le choix de carrière de certains d'entre eux. Anciennement connu sous le nom de camp d'écologie Saint-Viateur, le site a été fondé en 1960 par le père Jean-Baptiste Genet. Il enseignait alors au collège Saint-Viateur à Outremont, où se trouve aujourd'hui l'école secondaire Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont. Pendant des décennies, ce camp, situé au cœur d'un paysage remarquable, a accueilli chaque été de nombreux adolescents venus y découvrir pendant 2 semaines les sciences de la nature. L'aspect scientifique du camp m'a vraiment allumé à la biologie, à l'écologie et aux sciences en général, relève Pierre Lefebvre, qui conserve des souvenirs précieux de son passage dans ce camp 6 années de suite, comme campeur puis comme moniteur au début des années 1970. Il se remémore une nature spectaculaire qui avait bien surpris le Montréalais de la grande ville qu'il était alors. À l'époque, les bélugas étaient plus nombreux et on les voyait quasiment tous les jours, raconte M. Lefebvre. Il explique que les campeurs devaient choisir, à leur arrivée sur le site, dans quelle discipline ils souhaitaient réaliser leur stage. Ils avaient notamment le choix entre la botanique, l'ornithologie, la biologie marine et la géologie. Au cœur de la nature. L'horaire des campeurs était par la suite presque aussi chargé que celui d'un ministre, raconte Chantal Labrec. Celle-ci a d'abord été animatrice dans ce camp à la fin des années 1980, avant d'en devenir membre du conseil d'administration jusqu'au début des années 2000. « Je n'étais pas capable d'arrêter. J'aimais trop ça », lance-t-elle, le sourire dans la voix. En entrevue, elle décrit les journées très bien remplies des campeurs. Ils devaient effectuer des exercices physiques tôt le matin, suivis d'une série d'activités scientifiques dans la nature et dans un laboratoire. Les jeunes pratiquaient par ailleurs divers sports en cours de journée. C'était un régime de vie santé à la dure, dans la nature, sous la tente, avec les moustiques, lance en riant le frère Yvon Roland. Membre des clercs de Saint-Viateur, il avait été invité au tournant des années 1970 à aller visiter ce site, marqué à l'époque par la présence d'une goélette qui semblait échouée dans la baie de Port-au-Saumon, mais qui avait plutôt été volontairement installée là. Abîmée par le passage du temps, elle a été retirée depuis. « Je suis resté », raconte-t-il. Il est retourné chaque année jusqu'au début des années 2000, prêté main-forte au père Genet, décédé en 2015, afin de le seconder de façon bénévole dans la gestion de ce site. Je trouvais dans ce camp une formule pleine de vie, près de la nature. Et il y a toute l'équipe de base que je trouvais dynamique, ajoute M. Roland, qui se réjouissait de voir les jeunes s'initier ainsi à la nature, mais aussi développer des amitiés et un attachement pour cet endroit unique. Beaucoup de jeunes avaient de la difficulté à partir à la fin des 15 jours de leur séjour, se rappelle le religieux, qui conserve un souvenir indélébile de cette époque. Des scientifiques en herbe. Plusieurs anciens campeurs sont d'ailleurs devenus, depuis, des scientifiques, des médecins ou encore des spécialistes de l'ornithologie, constate Yvon Roland. C'est le cas de François Coutelet, qui a été campeur, puis moniteur, dans ce coin de paradis au milieu des années 1970. Il a ensuite poursuivi des études supérieures qui l'ont amené à devenir, en 2013, chef du département de microbiologie médicale et d'infectiologie du CHUM à Montréal. C'était un camp de science, mais qui misait beaucoup à développer des activités sociales, raconte-t-il en entrevue. À titre de moniteur, M. Coutelet s'est notamment occupé de l'équipe des campeurs ayant choisi comme discipline la biologie marine. Dans ce cadre, il a réalisé des excursions avec des campeurs qui ont ainsi pu répertorier et disséquer plusieurs poissons. C'était un défi à l'époque, parce que je recrutais tous les jeunes qui ne voulaient pas faire de la science, mais qui voulaient pêcher. Je devais les introduire à la science, dont ils ne voulaient rien savoir, lance le docteur. Un autre ancien campeur, Daniel Toussaint, est pour sa part devenu biologiste, notamment pour le compte du ministère québécois des forêts et de la faune et des parcs. On découvrait la faune et la flore marine au gré des marées, relate-t-il. Il garde notamment en souvenir l'expérience surréelle d'aller pêcher au crépuscule des éperlans au quai de Port-aux-Semonts. Ce camp, ajoute-t-il, ce n'était pas un loisir, c'était vraiment un apprentissage. Il a d'ailleurs été, pour lui, très formateur. C'est à Port-aux-Semonts que j'ai commencé à faire de l'ornithologie, en notant des observations à la main dans un calepin, souligne-t-il. Rester vivant. Au début des années 2000, le terrain a été vendu à Denis Turcotte, un biologiste et professeur aujourd'hui à la retraite, qui a continué à y tenir un camp de jour en été jusqu'à ce que la COVID-19 frappe en 2020. Depuis, pour des raisons financières, on ne fait plus de camp avec les jeunes, explique M. Turcotte, qui ouvre plutôt le site à des groupes de passage pendant la saison estivale. Je continue à garder le site accessible aux petits groupes voulant venir étudier la nature sous tous ses angles, de même qu'aux anciens du camp Saint-Viateur qui souhaitent visiter les lieux avec leurs proches, en faisant toujours un lien avec l'écologie, souligne-t-il. Le propriétaire de ce site, qui a marqué beaucoup de gens, aujourd'hui appelé « l'ère de l'estuaire », conserve toutefois le souhait qu'un camp de jour y soit de nouveau offert. Peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, il y aura quelqu'un qui reprendra l'idée de faire des camps avec des gens, espère-t-il. Entre-temps, il entend préserver du mieux qu'il peut la vocation écologique de ce site. L'important, c'est de rester vivant. C'était un camp d'écologie à la dure qui a forgé des scientifiques à Charlevoix. Un texte de Zachary Goudreau paru le 5 juillet 2025 dans Le Devoir.
Too much. Lena Dunham appartient-elle à une autre époque? Un texte de Benoît Lelièvre paru le 17 juillet 2025 dans Urbania. Tout ce qui date d'avant le premier mandat de Donald Trump me semble provenir du siècle dernier. D'un monde plus simple, où c'était permis de se soucier juste de soi-même, à condition de ne faire mal à personne. Girls, la série culte de l'autrice new-yorkaise Lena Dunham, est un digne artefact de ce monde perdu. Paru en 2012, avant que je ne devienne journaliste et alors que la plupart de mes collègues étaient encore à la petite école, elle a assez vieilli culturellement que Nicolas Cage pourrait décider de s'en emparer dans un prochain chapitre de National Treasure. Girls, c'était un peu comme l'anti-Sex and the City. Une des premières fois où l'on explorait au petit écran la vie de jeune adulte au féminin sans le vernis de la télé contemporaine. Puis, c'est peut-être dû aux controverses qui se suivent et ne se ressemblent pas pour Dunham ou tout simplement le monde qui a changé, mais aucun de ses projets subséquents n'a connu la même popularité ou succès critique que Girls. C'est peut-être pour cette raison que Too Much, sa nouvelle série, est on ne peut plus différente de sa prédécesseur et du portrait iconique qu'elle dressait de la jeunesse new-yorkaise. Dans Too Much, on cherche plutôt à déconstruire la comédie romantique à l'ère post-hashtag MeToo, tout en contraste, ce qui détonne de l'imaginaire rose-bonbon habituellement associé au genre. S'aimer à l'ère du soupçon. Too Much, c'est l'histoire de Jessica, interprétée par une Megan Stalter bien dans son élément, une assistante de production dans le milieu publicitaire qui traverse une grosse peine d'amour après que son conjoint des 7 dernières années l'ait laissée pour une influenceuse, Emily Ratajkowski. Ouais, ça fait mal. En proie à une profonde détresse, elle accepte un contrat à Londres pour s'éloigner de son ex. Dès son premier soir en ville, Jessica fait la rencontre de Félix, qui ressemble à un croisement entre mon collègue Jacob Kaya et un jeune David Usher, interprété par Will Sharp. En surface, Félix, c'est le chum idéal. Drôle, relax et romantique, il pleure à chaudes larmes en regardant Paddington et ne consomme plus depuis 3 ans. S'il possède la sagesse d'une personne qui reconnaît la fragilité du bonheur, le cœur de Jessica, lui, se remet à peine d'un incendie 5 alarmes. Bon. Ce résumé ne vend pas bien la patente. Loin d'être une porno émotionnelle qui génère des attentes irréalistes au sujet de la vie amoureuse, Too Much est un leurre se faisant passer pour un clone d'Emily in Paris, avant de finalement se déconstruire sous nos yeux. Et c'est là le plus grand défaut de Too Much. La série prend la moitié des épisodes pour asseoir son idée de base, soit que c'est difficile pour une jeune femme de se laisser aller, à l'ère où on est si bien informé sur les dangers inhérents aux rencontres amoureuses. Intéressant? Absolument. Laborieux? Un peu aussi. Mais c'est aussi ça l'amour, à l'ère du soupçon. On vit des moments beaux et simples lorsqu'on connecte physiquement et émotionnellement avec quelqu'un. Puis, dès qu'on en parle à nos proches hyper informés, ils parasitent la magie avec leurs histoires de désastres amoureux et leurs connaissances encyclopédiques des tactiques de manipulation. À les entendre, on en vient inévitablement à tout remettre en question. Parfois, avec raison. Parfois, c'est une prophétie auto-réalisatrice. Entouré de collègues se voulant bienveillants, mais blasés en termes de relations amoureuses, c'est son âme de petite fille que Jessica met en jeu dans sa relation avec Félix. C'est pas un peu simpliste comme vision? Peut-être un peu, oui. L'exécution n'est peut-être pas parfaite, mais l'intention est louable. Toute relation amoureuse saine contient son lot de remises en question. Ça implique de faire confiance à l'autre personne, quitte à ce que cette personne nous déçoive éventuellement et ultimement de la choisir malgré ses travers. La bonne personne doit vous respecter et y mettre du sien, bien sûr, mais c'est aussi celle qui a les défauts avec lesquels vous pouvez vivre. J'en sais quelque chose. Ça fait bientôt 20 ans que je file le parfait bonheur avec madame. Too Much, c'est en quelque sorte une classe en accéléré sur le sujet, à l'aide d'un exemple très rose-bonbon. Sur ce plan, c'est quand même réussi. Loin d'être révolutionnaire comme Girls l'a été dans l'Ancien Monde, c'est un regard intelligent sur un sujet qui serait difficile à aborder autrement que par une mise en abîme colorée, très détachée du réel sur certains aspects et pas du tout sur d'autres. Qu'est-ce que ça signifie pour Lina Dunham au juste? Est-ce que Too Much la réhabilite au titre de rassembleuse du petit écran pour le meilleur et pour le pire? Là-dessus, c'est plus difficile de se prononcer. J'ai envie de dire non. Que Girls, c'était un produit d'une autre époque et que la plume de Dunham n'a peut-être plus le pouvoir de choquer et de nous forcer à nous remettre en question comme ce fut le cas auparavant. Maintenant, Est-ce que Too Much est le premier pas vers un deuxième acte pour la carrière d'une créatrice qui s'efforce d'être plus sage dans son travail? Bien que les parallèles entre Jessica et son autrice soient clairs, Dunham est mariée avec le musicien britannique Louis Felber. C'est un peu trop édulcoré pour se qualifier à titre de nouveau départ en bonne et due forme. Bref, je n'ai pas détesté Too Much, mais j'ai dû trimer plus dur que nécessaire pour y trouver mon compte. À une époque où on a constamment 22 séries de retard sur le curriculum culturel, c'est là un péché mortel. Le format oblige à regarder en rafale pour saisir l'entièreté du propos et c'est beaucoup de travail pour le divertissement offert. Désolé, Lina, mais Too Much ne m'a pas convaincu que ta place devrait être dans un musée. C'était Too Much, Lina Dunham appartient-elle à une autre époque? Un texte de Benoît Lelièvre, paru le 17 juillet 2025 dans Urbania.
Arnaque en ligne, des millions de dollars de fraude ou Nunavut. Un texte de Karine Lavoie, paru le 8 juillet 2025 dans le Nunavoie. Les fraudes informatiques et téléphoniques se multiplient au Nunavut alors que les escrocs ont recours à des tactiques de plus en plus sophistiquées. La Kikiktani Inuit Association, QIA, l'a appris à ses dépens en 2024, tandis que plus de 2 millions de dollars leur ont été dérobés. La division de la consommation du ministère des services communautaires a récemment souhaité rappeler aux Nunavumiut qu'il faut toujours faire preuve de vigilance face aux offres en ligne. Selon les données du Centre antifraude du Canada, entre le 1er janvier 2025 et le 31 mars 2025, 9092 victimes de fraude avaient été répertoriées au pays pour des pertes financières totales évaluées à 165 millions de dollars. La QIA s'en tire sans trop de dommages. Au cours de l'année 2024, la Gendarmerie royale du Canada, GRC, au Nunavut, rapporte avoir reçu 5 plaintes pour fraude en ligne. Le sergent Georges Henry, attitré aux médias et à la police communautaire, indique que ce ne sont cependant pas tous les cas qui ont mené à une perte de liquidité. L'un des signalements concerne une personne ayant déclaré avoir fait des gains sur un site de jeu en ligne, mais ne les avoir jamais obtenus, car son compte avait été piraté et les fonds avaient été redirigés ailleurs. Deux plaintes provenaient de Nunavumiut affirmant que quelqu'un se faisait passer pour eux sur les réseaux sociaux dans le but de demander de l'argent. Les dernières situations se rapportent à des organisations non gouvernementales, ONG, qui ont été fraudées pour une somme totale d'environ 5 millions de dollars par des escroqueries par hameçonnage. Dans un communiqué de la GRC publié le 23 mai 2025, on apprend que la section des enquêtes générales, SEG, de la GRC d'Iqaluit a posé des accusations dans l'un des deux dossiers pour des faits qui remontent à novembre 2024. Chukwuma Eruchalu, un homme de 23 ans, a été arrêté à Winnipeg et poursuivi pour avoir fraudé la QIA pour plus de 2 millions de dollars à la suite d'une compromission de courrier électronique commercial. La compromission de courrier électronique professionnel est une arnaque sophistiquée dans laquelle un individu compromet des comptes de courrier électronique professionnel légitimes par le biais de l'ingénierie sociale ou d'une intrusion informatique pour effectuer des transferts de fonds non autorisés, peut-on lire dans le message de la GRC. À ce jour, la QIA déclare avoir récupéré 2,1 millions de dollars des 2,2 millions de dollars perdus et s'efforce de recouvrer la somme restante. Bien que les systèmes de la QIA n'aient pas été compromis, nous continuons néanmoins à mettre à jour nos processus internes et externes actuels pour éviter de futures tentatives de fraude. QIA prend actuellement des mesures actives pour s'assurer que le personnel est formé et informé sur la cybercriminalité et les moyens de se protéger contre les attaques, affirme la QIA par voie de communiqué. Le 19 juin dernier, La GRC d'Iqaluit informait cette fois-ci avoir reçu de nombreux signalements faisant état d'une escroquerie qui circule partout sur le territoire. L'arnaque concerne la page Facebook Sell and Swap, où une personne annonce vendre de la nourriture traditionnelle. Une fois les fonds recueillis, l'escroc ne fournit pas la marchandise promise et bloque les interactions avec l'acheteur. Marjou Onalik est l'une des victimes récentes de ce stratège. Ne souhaitant pas dévoiler le montant perdu, la résidente d'Iqaluit s'attendait à recevoir de la viande de caribou et de beluga à la suite de sa transaction. « Il y a très peu de chances de récupérer mon argent et c'est terrible. » Contacté afin de savoir s'il avait lui-même été victime de fraude, le gouvernement territorial déclare ne pas être à l'abri de ces attaques. Le gouvernement du Nunavut se défend quotidiennement contre la cybercriminalité et les activités frauduleuses au moyen de mesures préventives, notamment la formation du personnel et un accent continu sur le renforcement des contrôles internes. Quelques conseils pour éviter les pièges. Pour se protéger contre la fraude, le ministère des Services communautaires recommande de toujours vérifier l'identité d'un vendeur en ligne et de ne jamais répondre à une communication qui semble louche. L'utilisation de l'identification à deux facteurs pour ouvrir une session dans le portail d'une institution financière, ainsi que la modification fréquente des mots de passe, constituent aussi de bonnes habitudes à prendre. À ces conseils, la GRC d'Iqaluit ajoute qu'en aucun cas, une personne ne devrait procéder à un virement électronique avant de récupérer les articles achetés, marchandises qui se doit par ailleurs d'être recueillies dans un endroit public. Il est également suggéré de se méfier des soldes qui semblent trop beaux pour être vrais. Enfin, il ne faut jamais partager des informations personnelles telles qu'une date de naissance ou des données bancaires. Si vous êtes victime d'une fraude, communiquez avec la GRC d'Iqaluit au 867-979-0123 et avec le Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501. C'était « Arnaque en ligne, des millions de dollars de fraude au Nunavut », un texte de Karine Lavoie paru le 8 juillet 2025 dans le Nunavoie.
Régime public d'assurance médicaments, ajustement des tarifs au 1er juillet. Un texte d'Emmanuel Mosayan Vers-Chaev, paru le 2 juillet 2025 dans Protégez-vous. Si vous êtes inscrit au régime public d'assurance médicaments, vous devrez débourser davantage pour acheter vos médicaments d'ordonnance, même si votre co-assurance vous coûtera moins cher. Explication. Votre contribution financière au régime public d'assurance maladie sera modifiée à compter du 1er juillet 2025. À partir de cette date, la prime et les contributions mensuelles en pharmacie subiront une hausse de 3%, tandis que la franchise restera inchangée et que la co-assurance sera réduite de 2 %. Selon le gouvernement, cela devrait alléger la facture des personnes assurées lors de l'achat de médicaments d'ordonnance en pharmacie. Décrypter sa facture. Lorsque vous êtes inscrit au régime public d'assurance médicaments et que vous détenez une carte d'assurance maladie valide, vous devez payer à Revenu Québec une prime annuelle, puis en pharmacie, une franchise mensuelle, une co-assurance et une contribution mensuelle. À compter du 1er juillet, la prime annuelle, qui varie selon votre situation et votre revenu familial net, passe de 744 à 766 $. La franchise mensuelle reste à 22 $. La co-assurance diminue passant de 32 à 30 %. La contribution mensuelle maximale passe de 99,65 $ à 102,64 $ si vous êtes âgé de 18 à 64 ans ou de 65 ans ou plus et que vous ne recevez pas le supplément de revenus garanti SRG. Si vous avez plus de 65 ans et que vous recevez moins de 94 % du SRG, votre contribution mensuelle maximale passera de 56,17 sous à 57,29 sous. Exemple de calcul de la contribution financière à payer lors de l'achat d'un médicament à la pharmacie. Philippe est âgé de 43 ans. Il achète chaque mois le même médicament qui vaut 100 $. Quel prix paie-t-il en réalité? Coût du médicament, 100 $. Moins la franchise mensuelle à payer, 22 $. À cela s'ajoute la coassurance, 23,40 $. 100 $ moins 22 $ égale 78 $ multiplié par 30 % égale 23,40 $. Contribution à payer chaque mois égale 45,40 $. 22 $ plus 23,40. Si Philippe achète un deuxième médicament au cours d'un même mois et que ce médicament coûte 60 $, il paiera uniquement la coassurance de 30 %, soit 18 $, pour un total de 63,40 $ pour ces deux médicaments. Peu importe le nombre de médicaments achetés au cours d'un même mois, Philippe ne paierait pas plus de 102,64 $ par mois. Vous pouvez consulter les montants à payer sur le site web de la régie au ramq.gouv.qc.ca. C'était Régime public d'assurance médicaments, ajustement des tarifs au 1er juillet. Un texte d'Emmanuel Mosayan Verchaev, paru le 2 juillet 2025 dans Protégez-vous.